Envie de films audacieux qui renouvellent le langage du cinéma?
Pour un accès privilégié aux visions les plus stimulantes et diversifiées du cinéma documentaire, les RIDM sont le festival à ne pas manquer.
Ça se passe du 15 au 26 novembre à Montréal.
Rendez-vous au ridm.ca pour tout savoir sur la programmation.
Les rencontres internationales du documentaire de Montréal. Là où toutes les histoires se rencontrent.
Salut, c'est Superplage et vous écoutez choc.ca.
Déjà notre troisième émission de la saison. Ça passe tellement vite, pour vrai. Là. Moi, ça me fait peur. Ça passe vraiment trop vite. Est-ce que vous tripez à date? En tout cas, parce que moi, oui. Moi, vraiment, là, je suis vraiment abasourdie par la diversité de contenu et la qualité de contenu qu'on a jusqu'ici. Je trouve ça vraiment excitant. Avant de vous présenter le menu de l'épisode d'aujourd'hui, je vais faire une petite annonce PR pour vous annoncer que la nouvelle page Instagram de Dans les arts est maintenant disponible. On s'est fait un nouveau look, tout est fresh, ça vient juste de commencer. On n'a pas encore beaucoup de followers, fait que je vous l'annonce. Si vous voulez suivre notre émission Dans les arts, notre magazine culturel préféré, ça va être sur @danslesarts.podcast. Allez nous suivre. À chaque fois qu'on sort des épisodes, on va faire des petits posts avec des petits matériels visuels pour vous aider à appuyer nos chroniques, etc., etc. Si on a des infos à vous donner aussi, ça va être là-dessus. Si vous avez des questions à nous poser plus directement aussi, je vais vous inviter à nous écrire avec Instagram et ou notre email. Alors voilà, mon petit blog PR est terminé. Et alors, au menu aujourd'hui, je vais vous présenter un peu qu'est-ce qu'on a à la table parce qu'on a une table bien garnie, c'est très excitant. On va tout d'abord commencer avec Nicolas, qui est accompagné des cinéastes Roman Garand-Chartrand et Abby Bata, ou Arm. Et par la suite, on va aussi en studio. On est en studio avec nous pour la première fois, Théo, qui se joint à nous. Bienvenue, Théo! Théo nous propose une entrevue pour la première mondiale de la composition intitulée Lysis, produite par l'Orchestre de l'Université de Montréal à la Maison Symphonique, qui s'est déroulé en fait le 12 novembre. Donc Théo nous a préparé une petite entrevue à ce propos, c'est bien excitant. On enchaîne aussi par la suite avec Nathaniel qui est de retour avec nous cette semaine. C'est ça, j'y demandais tantôt au studio, comment qu'on pourrait décrire ces chroniques? Moi, je serais comme en chronique littéraire / philosophique, je sais pas trop. On va essayer de se trouver un petit nom aussi tantôt. On va vous demander à Nathaniel tantôt qu'est-ce qu'il en pense. Ça serait quoi le nom de ces chroniques? Puis de mon côté, j'avais comme pas grand-chose à vous donner à part mon amour éternel pour la culture, mais je pense aussi que je peux prendre ce moment pour vous parler d'un événement important aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, c'est le jour du souvenir trans et il y a une marche, une vigile, une manif pour les vies trans. Aujourd'hui, le 20 novembre, qui débute à 18h au monument Sir Georges-Étienne Cartier. Ça finit à 20h au Parc La Fontaine, alors soyez informés si vous voulez aller appuyer cette cause très importante. Alors, voilà. Nicolas, est-ce que tu m'entends bien?
Oui, allô?
Désolé, on a un petit problème technique à la régie. Désolé pour vos oreilles.
Ça nous a bien réveillés en ce lundi 20 novembre.
Je vais laisser la place à Nicolas et ses deux invités.
Oui, ben j'ai décidé, dans le cadre des rencontres internationales du documentaire de Montréal, qui ont commencé le 15 novembre dernier déjà, de convier deux cinéastes qui ont l'honneur, la chance d'être produites par l'Office national du film. Alors, j'ai nommé Roman Garand-Chartrand, bonjour.
Salut.
Avec son court-métrage « Après coup mm-hmm. » et Abby Bata Warmé du documentaire « Coro Mousseau, grande sœur » co-réalisé avec Jim Donovan.
Bonjour.
Et c'est pas un hasard, en fait, mesdames, si j'ai décidé de vous convier toutes les deux autour de la même table en panel documentaire. Il faut dire que vos deux films osent aborder des tabous. C'est dommage à dire, mais ce sont encore des tabous. Korumuso est un long métrage qui parle de l'ablation du clitoris ou l'excision. Et on parle aussi de MFG, je crois. Mutilation génitale féminine, c'est une abréviation que dont j'avais jamais entendu parler et qui sont pratiquées malheureusement encore dans 31 pays. Après coup de Roman de Garand-Chartrand, s'attarde à un centre qui accueille des femmes qui ont été victimes de violences conjugales. Est-ce qu'on dit encore ça, Roman, victime de violences conjugales?
Oui, absolument. Les centres eux-mêmes, les maisons d'hébergement, c'est comme ça qu'ils s'appellent, dans le fond. Puis c'est surtout, on essaie d'inclure aussi les enfants. Fait que c'est souvent pour femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants.
Alors, moi, ma première question pour vous deux, c'est qu'est-ce qui nous mène à vouloir aborder un tabou? Ou est-ce qu'on est fatigué du mot tabou, justement? Abibata?
Absolument. Pour ma part, c'est dans le but de créer un changement parce que tout ce qui est tabou reste dans l'ombre et ce qui est dans l'ombre est difficile à toucher, à pointer du doigt. Et il y a tellement de problématiques qui touchent les femmes qui restent dans l'ombre, ce qui fait que la cause féminine est souvent difficile à défendre. Et aussi le fait que les femmes souvent sentent un peu la pression sociale ou la pression de la famille qui fait qu'elles décident des fois de se créer une carapace et de se renfermer sur elles-mêmes. Donc voilà, le sujet de la sexualité est toujours tabou, hein, et reste tabou malheureusement.
Il y a d'abord le corps et la sexualité, puis les deux sont indissociables nécessairement.
C'est difficile de détacher quelqu'un de sa sexualité. Quand on n'a pas le contrôle de sa sexualité, du coup, il est difficile de se sentir entière en tant que personne. Et Korumuso, donne la parole aux femmes et qui décident vraiment. Il est difficile d'avoir des femmes qui veulent s'afficher pour parler de sexualité. Et encore plus pour les communautés racisées.
Vous avez eu du mal à en trouver pour votre film?
Absolument, oui. Parce que même étant ici au Canada, la pression sociale de la famille à distance est toujours très, très présente. Et aussi, le fait d'être dans un contexte où, oui, le Canada est mon pays d'accueil, mais il est toujours difficile pour moi d'afficher certaines problématiques sexuelles.
Parce que vous êtes de la Côte d'Ivoire, c'est ça, aussi?
Oui, je suis ivoiro-burkinabé.
Ouagadougou, c'est vrai, qu'on voit dans le film.
Oui, un mix ouest-africain, si on peut le dire comme ça. Il était difficile d'avoir des femmes qui décident de se mettre comme ça devant la caméra. Moi, je suis dans le film, ce n'était pas décidé dès le départ parce que je voulais permettre à d'autres femmes de prendre la parole et je me suis rendu compte que j'étais obligée de le faire, de me mettre en avant pour que ces femmes-là puissent s'appuyer sur moi, si on veut dire, d'où le titre Grande Sœur, parce que ça prend une grande sœur pour attraper la main d'une autre et l'amener un peu dans la lumière et lui dire que tiens, je suis là, je te tiens la main.
Et élever une jeune femme à la fois à coup de grande sœur. Il n'y a pas juste le village, il y a les grandes sœurs aussi, oui. C'est ce que vous dites.
Oui.
Romane, on parle de tabou, on parle de difficulté à trouver des femmes qui veulent témoigner. Dans votre film, bien sûr, on ne voit pas les visages de ces femmes-là. Est-ce que vous avez quand même eu du mal à convaincre les femmes de se laisser filmer?
Ouais, au niveau d'après-coup, en fait, moi, j'avais vraiment envie de passer par... il y a environ 150 maisons d'hébergement. C'est des foyers de crise qu'on appelle les maisons de première étape au Québec. Puis il y a la Fédération des maisons d'hébergement, le regroupement des maisons d'hébergement, puis il y a aussi des OBNL. Mais c'est un peu comme les deux alliances, je dirais, majeures qui gèrent ces 150 maisons-là au Québec. Moi, j'avais envie de passer par le regroupement et la fédération pour qu'on ait un peu un saut d'approbation. J'aurais pu écrire directement à des maisons d'hébergement. Tu sais, il y en a à Montréal, il y en a partout en région, dans le Grand Montréal, c'est ça, dans les alentours. Mais je préférais passer par la fédération, le regroupement, pour qu'on leur présente notre projet puis qu'eux aussi déjà nous donnent un peu leurs conseils, leurs avis. Puis ils nous ont référé directement à des maisons qui pouvaient potentiellement être intéressées au projet. Je suis allée dans justement 3 maisons visiter parce que ça diffère d'endroits dépendamment de la direction, des intervenantes, de leur approche. C'est sûr que c'est tout le temps des approches féministes, mais c'est pas tout le monde qui a la même manière de travailler. Fait que j'ai visité plusieurs centres, puis on a comme décidé d'y aller avec la Maison La Traverse. Je pense que dès que je me suis présentée là-bas, dès que j'ai mis les pieds la première fois dans ce centre-là, même si pour moi c'était très confrontant d'aller là-bas, je me demandais aussi comment ma présence allait être perçue, comment est-ce que j'allais pouvoir connecter avec les femmes, mais on dirait que moi, c'était en passant par une maison, je savais que j'allais trouver des personnages. Fait que c'était important d'avoir mes alliés avec les intervenantes, avec la direction, avec les femmes qui travaillent là-bas. Puis après ça, ben, j'allais travailler avec les femmes qui étaient résidentes, qui étaient hébergées à ce moment-là. J'ai fait du repérage pendant 8 mois avant qu'on amène une caméra. Fait que le premier groupe que j'ai rencontré, c'est pas le groupe qui était...
Fait que t'as suivi des femmes pendant 8 mois dans cette maison-là.
Ouais, moi j'y allais presque une à deux fois par semaine. Je suivais la rencontre de groupe, en fait, dont dans le film, c'est une rencontre de groupe qui est comme à chaque semaine donnée par une intervenante de groupe. Puis c'est une forme de, en fait, d'endroit de partage entre les femmes. C'est aussi dirigé avec... C'est comme 12 séances où est-ce qu'ils parlent de thématiques. À chaque semaine, on commence par l'estime de soi, la confiance en soi, puis on peut aller vers... tout ce qui leur est arrivé dans la violence sexuelle. Il y a comme une évolution à travers ça. C'est une intervenante de groupe qui est formée aussi pour donner ces ateliers-là. Puis, dans le fond, moi, je suis allée... J'ai commencé directement. La première fois que je suis rentrée là-bas, que j'ai mis les pieds là-bas, ben, j'assistais à une rencontre de groupe. Je participais comme je pouvais. Il y avait certaines questions qui étaient, of course, pas dirigées vers moi. Mm-hmm. Mais je pouvais prendre part, je pouvais comme participer, je pouvais répondre. Puis j'ai fait ça pendant... C'est ça, un genre de 7-8 mois avant qu'on entre un micro puis une caméra. Puis... Le premier groupe qu'on a rencontré au printemps, c'est pas lui qui est dans le film lorsqu'on a tourné à l'automne. Donc, fait que ça m'a permis
de... T'as pas rentré la caméra tout de suite, donc t'as pas profité de ce moment-là pour filmer ces fameuses images de temps qui passe, de clair-obscur. Ça, c'est venu plus tard.
Ouais, exact. C'est super important pour moi en documentaire de prendre son temps lorsqu'on fait de la recherche. Je voulais que la maison d'hébergement s'habitue à ma présence, que je voulais moi aussi rencontrer des femmes en leur expliquant ma démarche, en leur disant aussi qu'elles n'allaient pas être filmées, qu'elles n'allaient pas nécessairement... qu'elles prenaient part au projet dans le sens où c'était mon moment de recherche où moi, je commençais à mettre les pieds là-bas. J'étais en train encore d'écrire le film. On est toujours en train de l'écrire jusqu'au montage. Mais je trouvais ça important de, moi, créer des liens puis des contacts sans que ce soit nécessairement les mêmes personnages qui allaient être à l'écran. Il y a évidemment aussi un roulement, maison d'hébergement. Tu peux rentrer là-bas pour une nuit comme tu peux rester là 6 mois. Fait que j'avais aussi cette contrainte-là avec le film de jamais savoir quand est-ce que mes personnages allaient nécessairement quitter. Mm-hmm. Là, on a eu la chance d'avoir un groupe qui était présent pendant les 8 semaines de tournage à l'automne, mais il y avait des femmes qui pouvaient quitter quand elles le souhaitaient, tu sais. Fait que, ouais, c'était important pour moi d'aller faire du repérage, de voir comment ça se passait en maison, de récupérer tous les discours, les témoignages qui n'allaient pas nécessairement être répétés lors du tournage, mais moi, ça me donnait assez d'informations, de jus pour peut-être essayer de, je sais pas, de recréer ces moments-là ou juste d'avoir un temps d'observation assez large et vaste avant de... On a commencé aussi juste en rentrant un micro. C'était important qu'on soit graduel dans notre approche. Fait qu'on a eu 2 journées de tournage juste au micro, que juste ça soit la preneuse de son, Lynn Trépanier qui vienne, qui rencontre l'équipe. Puis après ça, la caméra est entrée pour un autre 10 jours de tournage.
Tu parles de créer des liens, puis j'entends aussi tout l'aspect de communauté. Moi, c'est ce qui m'a frappé dans vos 2 films. Qui, de prime abord, peuvent sembler des films graves, hein, de par leur sujet, justement, on disait tabou, mais ce sont des films solaires de par la force des liens qu'on y tisse. Est-ce que pour vous, c'était fondamental d'entrée de jeu ou ça s'est imposé au fil du tournage à Bibata, par exemple?
Pour moi, ça a été graduellement, voilà, parce que... Justement, il y a des femmes, comme je disais plus tôt, c'était difficile d'avoir des femmes là, qui allaient être dans le film et s'afficher comme ça, par peur un peu d'avoir des jugements de la communauté et tout ça. Donc, ça a été graduel. C'était un petit pas à la fois. Nous avons tourné sur 2 ans quand même. Donc, 2 ans suivent les protagonistes. La protagoniste qui est sa fille, il fallait la suivre tranquillement. Il fallait aller à son rythme à elle. Tourner selon voilà, son feeling. Est-ce que tu veux que cette partie-là sorte à l'écran? Est-ce que tu veux pas que, voilà, qu'on prenne cette partie-là? Il faut l'enlever. Et puis aussi, on avait un peu... C'est pendant qu'on tournait, il fallait que je prenne soin d'elle. de comment elle se sentait, de ses feelings, de ses émotions. Il fallait que je prenne soin de moi aussi. Donc voilà, oui, je tournais, j'étais en même
temps. Soin de son sujet de, au sens voilà, propre comme au sens voilà, figuré.
Parce,
là, oui.
Voilà, parce que voilà, je, étant moi-même victime de cette pratique-là, je connais, je sais c'est quoi le poids que cela peut avoir sur une personne. Donc j'étais, oui, en même temps gardienne de l'histoire, mais la protectrice, si je peux dire, voilà, de ces femmes-là. Et il fallait aussi que je fasse quelque chose de présentable pour la télé. Et pour faire passer le message, bien sûr, que les gens comprennent que ces femmes-là, oui, elles ne veulent pas forcément rester victimes. Mm-hmm. Elles ne veulent pas que la société, la communauté les voient comme victimes, même si elles ont été victimes d'une pratique. Elles ne veulent pas rester victimes, elles veulent sortir de la victimisation. Donc, oui.
Oui, moi, j'ai souvenir de cette jeune femme qui, après l'excision, voulait juste se battre, là.
Oui. Et
comme quelque chose de l'envie de se réapproprier son histoire, son corps, sa sexualité, dont vous parliez plus tôt, là.
Ouais. Oui, absolument, oui, oui. Il y a une qui disait que oui, quand, après l'excision, elle est devenue très violente parce que, voilà, elle voulait avoir mal tout le temps. Peut-être que, bon, c'était une façon pour elle d'essayer d'oublier la douleur ou le traumatisme qu'elle a eu. Donc, voilà, c'est... La communauté est importante. Mais en même temps, elle peut être un danger pour le développement d'une personne quand elle juge, quand elle n'accompagne pas dans le sens positif. Ce qu'on essaye justement de faire avec ce film-là, c'est de sensibiliser les communautés, d'être un peu plus à l'écoute des femmes, de la santé de la femme en général, voilà, demander aux médecins et chirurgiens autres de s'impliquer un petit peu plus dans cette cause-là, au lieu de souvent dire, voilà, c'est un problème de culture, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est un problème de communauté, on les laisse se débrouiller avec.
Mais la culture, c'est une personne à la fois. Hein?
Voilà, c'est une personne à la fois, une cause à la fois, un problème à la fois, et petit à petit, voilà, on réussit à éduquer les gens difficilement, mais oui, on y arrive.
Romane, toi, la communauté, c'est par essence dans ces foyers-là fondamental, mais c'est cinématographique aussi.
Oui, ben nous, je pense que l'idée de la communauté était là depuis le début. Tantôt, tu as mentionné, on ne voit pas les femmes dans le film. C'était un choix qui était narratif. Oui, c'est sûr que ces femmes-là sont constamment en danger encore aujourd'hui. Lorsqu'elles sont dans ces maisons-là, ces centres-là, elles n'ont pas d'adresse sur Internet. Le but, c'est justement que les conjoints et conjointes violents ne puissent pas les retrouver. Fait que c'est sûr que la question de la sécurité des protagonistes était tout le temps au cœur de nos discussions. Puis le consentement, tu sais, l'éthique pour moi en documentaire, c'est ultra, ultra important. Fait que de tout le temps renouveler si ces femmes-là, une journée de tournage où est-ce qu'on arrivait, elles étaient disposées à participer au projet. Mais l'idée de communauté est venue très tôt, l'idée de sororité, l'idée de parler en groupe. Je pense que c'est un film qui dresse un portrait, mais un portrait choral. J'avais envie que les personnages, toutes les voix, toutes leurs voix soient comme entremêlées, juxtaposées, qu'elles se répondent entre elles. Puis d'où l'idée de pas être capable de personnifier un visage. T'sais, je me suis longtemps posé la question, il faut qu'on voit le visage des victimes, c'est important, mais d'autre part, si j'étais capable de créer un immense discours puis qu'on se rend compte que ces 10 personnages-là ont toutes vécu la même chose, bien, ça va peut-être être encore plus vecteur de changement puis ça va plus véhiculer le message.
Le modus operandi de la violence, c'est souvent le même, hein?
Exact, puis tu sais, l'isolation, l'isolement, c'est quelque chose qu'elles ont toutes vécu. Il y en a que ça a été pendant des années, 25 ans. Fait que là, de les retrouver ensemble dans ces centres-là d'hébergement, moi, j'en ai témoigné, là, des femmes qui sont en train d'expliquer ce qu'elles ont vécu, puis la femme juste à côté va terminer sa phrase, puis c'est au point où elles ont tellement vécu les mêmes choses. Puis elle, c'est le plus grand soulagement d'être puis c'est autant, c'est malheureux, là, qu'elle se rend compte enfin, puis qu'elle puisse se rendre compte que toutes les femmes autour d'elles ont vécu la même chose, mais c'est un poids sur leurs épaules qui se libère, c'est d'ouvrir les discussions, c'est de se rendre compte qu'elles n'ont pas été toutes seules là-dedans, parce que c'est ça qu'on leur a fait croire, là.
Est-ce que ça t'a donné envie d'en faire un long métrage éventuellement?
Sûrement, ouais. On dirait que j'ai pas fini de... Tu sais, ça fait 2 ans là, que c'est ma vie que je m'intéresse énormément à la violence conjugale. On dirait que j'ai pas fini d'en parler. Je pense que c'est peut-être une porte qui vient de s'ouvrir. Puis on a beaucoup de projets aussi d'aller dans la communauté, dans les cercles de violence pour montrer le film. Il y a plusieurs des protagonistes aussi qui veulent venir avec nous en parler. Moi, c'est important pour moi qu'elles soient les porte-parole autant que moi. Puis comme tu disais aussi, de survivante à survivante, le message est différent, tu sais. Fait que ça m'enchante là, de savoir que je vais pouvoir peut-être y aller avec ces femmes-là en discuter.
J'aimerais ça vous entendre avant d'aller vers la fin sur le fait que vous avez vu le film de l'autre. Donc peut-être qu'est-ce qui vous a frappé soit dans les points de résonance, soit dans les différences, soit dans la portée du film. Qu'est-ce qui vous a frappé, toi, sur Coromousso, Roman?
Ouais, ben je salue ton travail vraiment beaucoup. Ça m'a grandement touchée. Je pense que tu as eu aussi un immense courage de participer toi-même à ton film. Puis je trouve ça vraiment pertinent. Puis juste que ton geste de t'intégrer toi-même au projet, ça soit aussi pour mettre à l'aise tes protagonistes. Tu sais, ça aurait pu, c'est quelque chose que tu as vécu, mais tu aurais pu pas nécessairement vouloir t'intégrer dans le film. Puis ça, je trouve que c'est très brave de ta part. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui m'est... Puis c'est un peu ce que je disais juste avant l'entrevue, Nico. Il y a quelque chose qui m'est resté en tête. Puis c'est quand un de tes personnages dit « J'ai l'impression qu'on m'a retiré un morceau de moi. Puis je cherche à retrouver ce morceau-là pour être une femme complète. » Puis on dirait que moi, c'est quelque chose que j'ai aussi entendu en maison d'hébergement. Tu sais, c'est... Au final, ce que les conjoints, conjointes violents, violentes font, c'est de déposséder ces femmes-là, de les déshumaniser jusqu'à ce qu'elles se sentent plus... humaine un peu, en quelque sorte. Fait que ce morceau-là d'elle-même, dans ton film, on dirait que j'étais vraiment capable de faire le lien avec les victimes de violences conjugales. Fait que ça, on dirait que ça m'a beaucoup interpellée, mais voilà, ça, j'ai beaucoup apprécié le visionnement de ton projet.
Abibata.
Merci. après coup, voilà, j'aurais... Bon, ça, c'est mon avis, hein. Je pense que si le film aurait duré 50 minutes, 60 minutes, je l'aurais regardé parce que j'ai trouvé que voilà, j'avais envie de voir plus, d'en voir plus. La partie vraiment qui m'a vraiment le plus touchée, c'est quand les femmes terminaient les phrases. J'ai trouvé ça beau, mais bah, pas beau dans le sens, voilà, c'est une problématique, c'est décevant, c'est... Mais de voir que ces femmes-là terminent les phrases comme ça entre elles, ça prouve et ça montre tellement que la violence voilà, a été très, très présente dans leur vie. Et oui, Coromousso, comme on le dit dans le film, dans le documentaire, c'est d'abord tout le contrôle de la parole, le contrôle de la voix, le contrôle du corps de la femme. Elle devient un peu un objet de possession, donc il faut trouver les moyens... voilà, peu importe ce que c'est comme moyen de la contrôler, s'il faut la battre ou voilà, la traumatiser. Donc oui, nos deux films se rejoignent parce que voilà, on parle de traumatisme, on parle de contrôle de femmes, on parle de violence.
De pouvoir, de dominance.
Voilà,
de dominance. En fait, c'est tout pour soumettre sa victime.
Voilà, pour soumettre. Donc voilà, le problème, c'est un problème que les femmes subissent depuis la nuit des temps, si on peut dire, qui change souvent de visage, mais qui reste toujours le même problème, contrôler le corps de la femme.
Oui, je t'ai entendu dire au départ, la cause féminine, j'ose croire qu'un jour, on n'aura plus besoin de dire ça, la cause féminine, mais...
Oui. Oui. Il y a encore du travail à faire.
Il y a encore du travail à faire, malheureusement. Oui, on rappelle à celles et ceux qui nous écoutent que vos films sont à l'affiche des rencontres internationales du documentaire de Montréal. Long métrage, Coromousso, lui, est à l'affiche demain, 21 à 20h30, et mercredi, le 22 à 15h15. Et dès ce samedi 25 novembre, il sera accessible gratuitement sur le site de l'ONF, onf.ca. Donc, il fait partie de État du Monde dans les RIDM. Et sinon, pour après-coup, qui fait partie du panorama Horizon, peut le voir les 23 et 26 à 17h30. Pour tous les détails sur le festival, vous visitez le RIDM.ca jusqu'au 26 novembre.
Nicolas, si je peux me permettre... j'aurais peut-être une question à poser à tes deux invités.
Ben oui, bien sûr, en guise d'épilogue.
Oui, en fait, je me demandais où est-ce qu'on peut suivre votre travail aussi autre qu'au rendez-vous à RIDM? Et aussi, en seconde question, peut-être si vous auriez des recommandations de plateformes à aller suivre pour les personnes qui sont concernées. Si vous n'en avez pas, c'est correct, j'en ai une petite liste aussi avec moi, mais je pense que peut-être que ça serait cool de peut-être avoir vos recommandations de noms d'OBNL et ou d'organismes qui pourraient donner des outils à certaines personnes.
Très bonne question.
Ouais, ben pour ma part, c'est la première du film au RDM, fait que ça va être la première fois qu'il va pouvoir être accessible au public en salle. On espère qu'il va continuer à voyager un peu dans les festivals. Puis nous aussi, on a une sortie en ligne sur onf.ca, plus prévue autour de février, mais génial. La date n'est pas encore décidée. Puis sinon, je vous dirais que pour s'informer, toutes les plateformes peuvent en parler, là, de la violence conjugale. C'est sûr que SOS Violence Conjugale, c'est vraiment le plus gros, je dirais, organisme, alliance, où il y a à la fois des informations, à la fois de l'aide, on peut chatter avec des intervenantes en ligne. Il y a beaucoup de petits quiz pour savoir, personnellement, est-ce qu'on pense être victime de violence? Si on est un proche ou proche aidant de l'entourage, est-ce qu'on pense que quelqu'un dans notre entourage en vit? Le site est vraiment super bien fait, super détaillé.
C'est SOS?
Ouais, SOS Violence Conjugale. Parfait, c'est aussi merci. La ligne d'écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
On va l'inclure en description dans l'épisode.
Ouais, c'est aussi à la fin du film, on en fait mention. Fait que je dirais ça. Puis sinon, le regroupement à la Fédération des maisons d'hébergement, je dirais que ces deux alliances-là sont... assez les principales, en fait.
Merci, Romane. Abibata?
Alors, moi, pour ma part, au Québec, il y a le RAFIC.
RAFIC, comment on écrit RAFIC?
Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec.
Parfait. Je vais aller chercher ça. Je vais aller chercher le lien et puis le mettre en
absolument, dont je suis membre depuis quelques années et je fais partie... je suis sur le CIA aussi. Si vous allez sur le site du RAFIC, vous allez voir qu'il y a une section vraiment dédiée au FGM et voilà les outils qu'on a développés pour sensibiliser et aider les femmes vivant avec les MGF. Côté Ontario, il y a NFGM. Donc,
NFGM.
Oui, okay. NFGM, qui fait aussi un travail extraordinaire. Voilà, je travaille avec ces deux organismes-là. Donc, c'est les deux génial. Vraiment que je conseille. Sinon, voilà, vous pouvez me retrouver sur Facebook. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent sur Facebook. Juste à taper mon nom, vous allez me voir sur Facebook. Vous pouvez m'envoyer un message. Je reçois souvent des messages comme ça de femmes par Facebook. C'est très rapide, on communique très, très vite. Puis c'est discret ou sur WhatsApp, voilà. Donc, en général, les gens veulent me parler directement. Donc, voilà, je suis ouverte aux discussions. Juste me contacter sur Facebook et puis voilà.
Merci. Merci de votre ouverture, mesdames.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Plaisir.
Ça fait plaisir. Merci.
On va continuer maintenant avec l'entrevue de Théo. Théo, est-ce que tu voudrais faire une petite introduction avant qu'on mette ton entrevue en ligne?
Oui, bien sûr. Donc, bonjour tout d'abord à nos chers auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Aujourd'hui au menu, je vous présente une performance de l'Orchestre de l'Université de Montréal qui s'est passée à la Maison Symphonique le 12 novembre dernier. Lors de cette performance, il y a... la première mondiale d'une œuvre intitulée Lysis qui a eu lieu. Lysis, composée par la compositrice Snezana Nedzic, qui est donc d'origine serbe. Lysis qui désigne en fait ce point tournant lors des rêves, lorsqu'on fait un rêve en fait. C'est le moment où l'on se rend compte en fait qu'on est... dans cet état de rêverie, lors d'un rêve lucide, finalement. Puis c'est ça, un mot sur la première mondiale, puis sur la musique classique contemporaine en général, c'est que ce qu'il faut savoir à propos de ce milieu, c'est que c'est ça, l'émergence est omniprésente, puisque dans la musique classique, comme on le sait, on a souvent ces titans des siècles précédents dont on entend parler comme Beethoven, Mozart, mais pas tant des compositeurs classiques contemporains actuels, à l'exception peut-être d'Alexandra Strelitzky.
Est-ce qu'on peut dire que c'est comme un peu la relève symphonique, un petit peu?
Si on veut, complètement.
Génial.
Bon, c'est un milieu super, super intéressant. Donc voilà, je suis allé... contacter la compositrice de Lysis pour aller interviewer les musiciens qu'elle me donne l'autorisation, puis j'ai pu le faire. On écoute l'entrevue avec les musiciens et le chef d'orchestre de l'Université de Montréal, Jean-François Rivet, tout de suite.
Génial, on écoute ça. Ça part!
Bonjour, Monsieur Rivet.
Oui, salut, bonjour.
Alors, moi, je m'appelle Paul Balesta et j'ai la chance d'être violon solo.
Je m'appelle Jeanne et je joue le Celesta dans l'orchestre.
Moi, c'est Kira Chorten, la harpiste.
Luc André dans les violons 2.
Marie-Lou, violoncelle.
Elvire, violon 1.
Anaïs, violon 2.
Marie, violon 2.
Bien, pour commencer, nous sommes à seulement quelques heures de la représentation. Comment te sens-tu?
Bien,
Bien, un peu stressée, je t'avouerais. Un peu nerveuse. Si on avait eu plus de semaines, plus de répétitions, je pense que ça aurait été plus facile.
On a hâte.
Hâte, un peu stressée, un peu fatiguée, mais on va tout donner.
Ça va. Je me sens assez bien. Quand on joue du contemporain, on appréhende moins, puisque il n'y a pas toutes les normes établies, contrairement à la musique classique, romantique. Là c'est, on est assez libre. Et déjà, la pièce n'est pas connue, donc on ne peut pas forcément se sentir jugé.
Et que penses-tu, toi, personnellement, de cette pièce? Comment tu me la décrirais?
Il y a quelques effets qui sont un peu... Genre, ça ne marche pas trop bien avec nos instruments, mais celles qui marchent bien, genre, c'est vraiment cool. Il y a des effets que je n'ai jamais entendus de pits qui sonnent comme un gong sur le violoncelle des cordes.
Il y a beaucoup de sections différentes qui sont pas répétitives du tout et qui demandent une sorte de travail de détail. C'est une pièce dans laquelle il y a une unité de pensée aussi entre le début, le milieu, la fin, donc une sorte de structure intelligente. C'est une très bonne compositrice, Snezana Nesik.
Très intéressante. Elle joue avec beaucoup d'effets à la harpe, par exemple, avec des glisses sur une corde avec une clé d'accord. Donc quelques petits effets intéressants qu'on voit surtout dans du répertoire plus solo et moins à l'orchestre. Donc c'est chouette de les incorporer.
Quel rôle dans la pièce occupent les instruments de ta section?
Je pense que nos effets sont là pour créer des ambiances. Leur rôle, c'est surtout ça, puis de venir faire des petites interactions spéciales. Alors que d'autres sections auraient plus le rôle, par exemple, de faire un fond sonore. Et nous, on vient comme ajouter un peu comme du relief dans l'œuvre.
Des textures.
On colore à certains moments. À certains moments, on est mis en valeur. On est un peu solo. De la même manière que parfois, je suis solo sans le reste de ma section. En fait, on est un peu multitâche, tandis que dans d'autres œuvres, on pourrait avoir un rôle très concret et ne pas sortir de ce rôle.
Il y a vraiment une grosse partie de Célesta, je joue presque tout le temps, ce qui est vraiment l'inverse de mon rôle habituel dans l'orchestre. Le Célesta n'est pas juste utilisé cette fois-ci comme un effet, mais même vraiment comme une section rythmique, une section mélodique.
Puis quels enjeux ou difficultés aura soulevé cette pièce de Nesik?
C'est juste qu'on n'avait pas trop de temps pour se préparer, puis on est tous venus aux premières répètes, puis genre c'était pas évident, les rythmes et des effets, donc ça sonnait pas bien, mais c'est pas à cause d'elle, je dirais. C'est juste à cause de nous avoir pas autant de temps.
Il faut avoir une petite idée de la pièce qu'on fait, tu sais, pour pouvoir lui faire justice, surtout quand c'est une première mondiale comme celle-ci, qu'on n'a pas d'enregistrement. Donc de s'assurer qu'on compte bien, surtout qu'on comprend bien nos entrées.
C'est une pièce qui a beaucoup de conversations entre des petits motifs complexes, etc. Une des premières difficultés d'un truc comme ça, c'est la balance. Par exemple, si, comme c'était le cas dans tout le grand début de la pièce, la harpe a un rôle très important, bien c'est sûr que les cuivres, bien, il faut les faire jouer très doux, sinon on va passer par-dessus la harpe. Alors, elle a mis des nuances plus douces dans les cuivres, mais j'ai continué dans cette démarche à faire descendre certaines nuances, à augmenter d'autres. Le rôle de l'interprète que je suis quand je dirige une œuvre comme ça, c'est celui de prendre sur mes épaules la responsabilité de encore mieux faire ressortir les idées.
C'est quoi un passage de l'œuvre qui te marque particulièrement?
Je vais citer notre chef qui a parlé du début de la pièce, qui en a parlé comme des petites étoiles qui s'allument dans le ciel, qui scintillent. Et mon instrument est quand même en bonne partie responsable de ça parce que ça correspond beaucoup à sa sonorité.
Si je fais écouter des contrebasses, je pense pas qu'on va penser à des étoiles, vraiment. On va plutôt penser au tissu noir de l'espace ou au fond des mers ou je sais pas quoi. Mais le Célesta, c'est un instrument de petites clochettes qui sont un peu violentes, en fait, qui sont très éclatantes. Alors, c'est assez facile de voir les sons de la harpe et du Célesta comme étant des petites étoiles qui brillent sur le fond plus grave du reste du son de l'orchestre.
Peut-être ce serait la dernière section, la dernière partie, où il y a une sorte de chorale un peu... qui ferait penser à une sorte de paysannerie un peu moyenâgeuse. Mais pas dans le mauvais sens du terme, hein, dans le bon sens.
Les violons 2, on a un thème qui fait un peu chant folklorique, où c'est très fort, puis tout le reste de l'orchestre joue fort aussi par-dessus. Fait que ça m'a marqué. Faut vraiment tout donner. Puis c'est là le climax. C'est là que. Genre, en plus, on est juste une section à jouer le thème. Fait qu'il faut vraiment y aller.
Elle a conçu des sortes de cascades descendantes qui sont dans les harpes, Célesta, les vents, les cordes, etc. C'est très, très beau aussi, comme des chutes d'eau.
Moi, j'aime bien quand elle utilise les glisses avec la clé d'accord, justement. Je trouve que ça fait un effet chouette. Avec le reste de l'orchestre, souvent en répétition, il y avait les violonistes devant moi qui se retournaient. Et à chaque fois, on me dit « qu'est-ce qu'elle fait, la harpe ?»
Dernière question et pas des moindres. Quel intérêt, finalement, de jouer ce genre de composition contemporaine par rapport au répertoire classique que l'on connaît un peu mieux?
Moi, je trouve ça bien de faire découvrir la nouvelle musique. Les compositeurs d'aujourd'hui sont aussi importants que ceux d'avant.
Ben, c'est de garder la musique classique vivante. C'est de lui assurer un futur. Puis ça envoie un message qu'il faut continuer à en composer, qu'il faut continuer à en jouer, puis qu'il faut continuer à en écouter.
Les compositeurs qu'on préfère aujourd'hui étaient vraiment pas populaires de leur vivant la majorité du temps. Donc, je pense que c'est important d'essayer de combattre ça quand on peut.
Même la 9e de Beethoven, le fameux hymne à la joie, que tout le monde connaît par cœur maintenant aujourd'hui, ça a eu absolument un échec total lors de la création. C'était un scandale. C'était réputé injouable et pas écoutable. Quand on joue une nouvelle pièce comme ça, ben, c'est un événement vraiment fabuleux parce qu'on fait vivre littéralement la création de l'imagination de la personne qui l'a composée. C'est, au niveau humain, c'est vraiment formidable comme idée.
C'est les œuvres qui sont jouées depuis des centaines d'années, plusieurs centaines d'années parfois. Souvent, les gens qui connaissent mélomanes et musiciens, ils ont une idée très précise de l'œuvre s'ils la connaissent. Et donc, du coup, ils s'attendent à quelque chose. Tandis que le contemporain, en l'occurrence une pièce qui n'a jamais été jouée, on peut juste s'attendre à de la nouveauté. Et la nouveauté, on la crée en la jouant une première fois surtout. Et c'est une chance quand même de pouvoir faire ça.
Les extraits musicaux utilisés pour cet épisode proviennent des titres Lysis de Snezana Nedzik et Danse profane de Claude Debussy, enregistrés par l'Orchestre de l'Université de Montréal.
Wow, Théo! C'était vraiment une belle première entrevue. Je tiens particulièrement à dire que j'ai adoré ton montage parce que quand tu fais ton entrevue, on entend les autres musiciens en fait répéter en arrière.
Oui, c'est ça. Enfin, ben, c'est un petit peu fait exprès. Pour le coup, la musique de fond utilisée, c'en est une autre. C'est pas, ça vient
comme
pas
tu l'as
directement.
Mentionné. Oui. Mais quand les gens y parlent, souvent on entend comme un violon
qui fait ça. En arrière. Exactement. Puis c'est ça, c'était ça aussi l'idée de. J'ai eu de la chance quand même aussi d'avoir l'opportunité d'aller parler à tous ces musiciens aussi, puis de les voir répéter leur partie individuellement. Puis c'est quand même beau de voir comment ces petits fragments viennent tous ensemble pour créer
un grand tout.
Exactement.
Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ce qui m'a plu, parce que tu sais, c'est les musiciens parlent beaucoup en termes imagés. Tu sais, quand ils parlent des petites étoiles, ils parlent beaucoup en termes imagés, ce qu'on se dit peut-être pas, parce que tu sais, les arts visuels, habituellement, moi je viens de ce monde-là, puis tu sais, on s'exprime tout le temps en images, mais on s'imagine pas que les musiciens aussi peuvent s'exprimer beaucoup en images quand ils parlent de leur art, tu sais. C'est pas parce que leur médium s'exprime pas nécessairement en images qu'ils vont pas utiliser ça pour, tu sais.
Mais tu sais, en même temps, si une image, c'est 1000 mots.
Ben oui, c'est vrai.
Ben une image, ça raconte toute une histoire, et la musique, c'est de l'histoire en son.
J'aurais tendance à dire que tous les artistes, toutes les formes d'art on a tendance à parler en images aussi.
Ouais, hein? Ouais. C'est quand même particulier. Mais en fait, c'est moi qui étais naïve là-dedans, mais ça m'a quand même beaucoup plu.
Mais oui, les musiciens utilisent toujours toutes sortes de métaphores pour... Monsieur Rivet, le chef d'orchestre, me l'a dit, là, comme quoi on adore comme ça associer les...
Les couleurs un peu plus sombres, disons, sont plus graves. Puis
c'est ça, il y a des couleurs, ouais, même c'est... des températures aussi,
ouais,
des
fois.
Oui,
c'est ça, ah. Exact.
Ah, c'est fou.
On associe toutes sortes de sensations différentes à la sensation auditive, finalement. Ouais. Puis c'est pas qu'on est des synesthètes, mais c'est que, finalement...
Ça nous parle.
Ouais.
Merci beaucoup, Théo. Et j'espère te revoir bientôt en studio pour Dans les arts, parce que j'ai vraiment aimé beaucoup cette entrevue.
Avec grand plaisir.
Comme prévu dans notre menu d'aujourd'hui, la dernière chronique qu'on a, c'est la chronique de Nathaniel. On peut appeler ça de même pour le moment.
Pour l'instant, appelons ça comme ça. Je vais réfléchir à...
Parce qu'il y a quand même une constance jusqu'ici, je trouve. Ouais. C'est tes textes écrits, c'est très littéraire. Ça va... Là, j'ai pas encore entendu celle-là d'aujourd'hui, mais il me semble qu'il y a un petit potentiel à nommer quelque chose là-dedans, les chroniques.
On va voir ça, on va voir ça.
On va brainstorm ensemble après.
Alors aujourd'hui, je vous livre une chronique intitulée « Au cœur de l'univers ». En rédigeant un travail pour le cours Journalisme et Société donné par Roland-Yves Carignan à l'UQAM, je suis tombé sur une phrase à côté de laquelle j'avais marqué « matière à chronique ». Et cette phrase-là, c'est « les individus incarnent les valeurs de la société ». Puis l'on part. Pouf. Dans notre tête, on imagine immédiatement plein de gens qu'on connaît de proche ou de loin, puis on se dit « c'est ça la société ». Je sais pas vous, là, mais moi, mon premier réflexe, ça a été d'être déçu. J'ai pensé à plein de gens que j'ai croisés dans la vie puis qui m'ont franchement pas impressionné, des 2 watts pas allumés pour 5 cents. Mais j'aime pas trop ce genre de pensée, alors je l'ai balayé en pensant à plein de monde plus le fun. J'aime ça parler aux gens puis apprendre leur récit de vie, fait qu'au lieu de me pencher sur combien sombre est notre société avec ses milliardaires insensibles, extrémistes, meurtriers et gens qui mettent du lait avant les céréales, je vais vous raconter l'histoire de personnes que vous rencontrerez probablement jamais, mais qui peuplent notre monde et qui sont des lampadaires dans la noirceur de notre pessimisme. Il y a Émilie Rat, une vendeuse de macarons artisanaux à un marché d'Annecy, qui avait le regard bon, le ventre gourmand et une légèreté extraordinaire. Elle adorait clairement son travail et la voir aller nous nourrissait bien plus qu'une infinité de macarons. Elle était là par passion, pas pour l'argent, puis ça sentait dans la qualité de ses interactions. Je pense à Philippe, bijoutier vendant ses créations au même marché à quelques étals plus loin, qui avait un fils travaillant pour un hôtel à Montréal, puis qui en a parlé en long puis en large pendant 20 minutes. C'était dur de lui en vouloir en voyant la fierté dans ses yeux. L'amour familial a de quoi rendre plus patient. Et Isabelle, réceptionniste d'un hôtel dans une petite ville près d'une un petit peu plus grosse ville, près d'une encore un petit peu plus grosse ville, près de Dijon, était à cheval sur les règles comme pas possible, puis courait comme une poule pas de tête la moitié du temps, mais était sympathique, puis bien intentionnée et clairement sous-effectif. Elle s'assurait quand même que tout roule et sa dévotion n'est que plus louable. Il y a Olivier, le gars de location de vélo qui était maladroit dans chacune de ses interactions sociales, mais clairement tripeux de vélo, puis il était tranquillou. Il était peinard, il se la coulait doux, ce gars-là, il vivait sans stress. Ça déteint ce rythme de vie. Et que dire d'Éric, le chauffeur de taxi dans cette toute petite ville qui a repris l'entreprise de son père et qui a eu la bonté de venir nous chercher un dimanche matin à 6h. Il nous a raconté l'histoire des vignobles qu'on traversait, du village, et semblait sincèrement désolé pour le gris exorbitant du tarif. Difficile de lui en vouloir un dimanche matin. En fait, difficile de faire grand-chose un dimanche matin à 6h. Et puis toutes ces boulangères, enfants de baguettes et de brioches évoluées entre les pralines et les éclairs au chocolat, un sourire sous le bras. Un sage répondit un jour à un voyageur lui demandant si les gens de ce village étaient gentils. Il lui a dit ça. « Comment étaient les gens dans ton village? » Le voyageur, rageur, répondit qu'il était méchant, ingrat et désagréable. Il est parti dès qu'il avait pu. Le sage répondit « Eh bien, tu trouveras les mêmes ici. » Le voyageur partit, maudissant l'humanité d'être aussi horrible. Quelques minutes plus tard, un autre voyageur vint et lui demanda si les gens de ce village étaient gentils. Il lui répondit encore « Comment étaient les gens dans ton village ?» Le voyageur, nostalgique, répondit qu'il était bon, généreux et accueillant. Il lui peinait d'avoir dû les quitter. Le sage répondit avec un sourire « Eh bien, tu trouveras les mêmes ici. » Un marchand non loin de là qui avait entendu ces deux conversations s'approcha et demanda au sage « Comment il peut dire que les gens du village étaient à la fois bons et méchants? Ça n'avait aucun sens! » Le sage sourit et lui dit « Chacun porte en son cœur son propre univers. C'est pourquoi les gens que nous rencontrons ne sont que le reflet de notre propre état mental. » Je pense que la morale de cette histoire, c'est qu'on voit ce qu'on apporte. On reçoit l'écho de nos paroles, de nos actions, de nos sourires. Alors, en regardant le fait que c'est la somme de nous tous qui constitue une société, je vois l'importance de la vie culturelle. Les œuvres d'art nous font réfléchir, nous construisent. Des histoires de quand vous étiez petit aux films que vous voyez maintenant, en passant par ces contes culturels classiques comme la chasse-galerie, chacun est un livre-monde qui nous montre à vivre ensemble. La question, c'est on veut plus de quoi?
Nathaniel, merci tellement pour ce magnifique texte. Je pense qu'il y a énormément de choses à déballer. Puis en plus, j'avais peur aujourd'hui qu'on n'aille pas assez de temps pour faire une petite conclusion puis se jaser un petit peu. Fait qu'on a en masse le temps pour ça.
Yeah.
Je tiens en premier à te remercier beaucoup pour cette belle écriture et de la partager avec nous. Je sais pas pour vous, les gars, mais ces passages-là, en fait, m'ont fait beaucoup penser. Je sais pas si vous, ça vous arrive dans la vie, mais moi, quand je marche dans la rue...
Ouais.
Si je suis dans le coin de Mont-Royal, puis tu sais, les samedis, il y a beaucoup de monde, puis tu sais, tu croises beaucoup de gens, puis pour vrai, je pense que ça m'arrive au moins une fois par semaine, je me dis, je suis la figurante du film de quelqu'un d'autre.
Ouais.
C'est fou, ça me donne un peu le vertige des fois, mais je pense que c'est important de se le rappeler.
Oui.
Surtout quand on pense en termes de société, de se rappeler que, comme tu disais aussi dans ton texte, qu'on a tout un petit univers à l'intérieur de nous, puis on est tous dans notre propre film, puis on est tous le main character, genre main character energy, mais il faut se rappeler aussi que c'est ça. Il y a une espèce de vertige là-dedans, mais aussi, en fait, une espèce de pas en arrière qui est tellement important à faire en termes d'observation, tu sais. Je sais pas pour
vous.
Une
sorte de leçon d'humilité, si on pourrait dire.
Ouais.
Ouais, d'humilité aussi.
Ben, toi, tu parles de figurante, mais moi, souvent, je me sens plus spectateur.
Spectateur.
Ouais, comme la fameuse activité de regarder dans les fenêtres. Là.
Ou être assis sur un banc de parc, puis people watch.
Être assis sur un banc.
Mais moi, je vois les fenêtres, là, surtout le soir. Là.
Ah, ouais.
J'imagine les vies des gens. Là. c'est un classique. Là, mais...
Tu me fais penser, le moment où ça m'a plus fait ça aussi dans ma vie, c'est quand j'étais en Chine, justement, je t'en parlais un peu tantôt, Nathaniel, avant de rentrer en studio. C'est vraiment le cliché, là, les immenses buildings, tu vois presque pas le ciel. Puis le soir, je te jure, c'était un show. Tout ce que je voyais à partir de ma chambre, c'était des murs et des murs de petits carrés illuminés. Puis dans chaque petit carré, il y a un petit théâtre.
Ouais. C'était... Il y a un monde.
Ouais.
Pour chacune de ces personnes, tout ce qui se passe dans leur vie est tellement prenant et tellement important. Puis on a tous la conviction d'être si important.
Ouais. Mais c'est pas d'être si important, mais c'est... Ça prend tellement de poids sur nos épaules, notre quotidien. Puis des fois, juste d'être capable de prendre un step back. Et comme tu dis, Nicolas, d'être spectateur, de prendre le rôle du spectateur au lieu de l'acteur principal, ça fait du bien.
Ça fait vraiment du bien. Mais il faut faire attention de ne pas tomber de l'autre bord complètement et de là, de se perdre dans l'observation. Ah oui. Puis là,
être passif.
T'es plus actif dans ta propre vie.
Une petite dépression aussi. Quand tu...
En fait, il faut se rappeler qu'on est interrelié. C'est de revenir à... Chaque personne a son rôle. À sa partition pour revenir à,
oui.
à l'orchestre.
Une analogie un peu plus musicale.
Ben oui.
Mais,
d'où l'importance aussi de la culture, comme tu l'as mentionné aussi par la suite. Je pense que c'est nous, on est tous des gens qui vivent de culture aussi. Mais monsieur, madame, tout le monde aussi, quand même, je pense que ça peut être quelque chose de très salutaire dans ces moments-là où est-ce que consommer n'importe quel type de culture peut juste aider à prendre un step back sur l'humanité en général, fait, OK, c'est ça l'expérience humaine, genre. Puis là, on va deep, là, on est vraiment en mode philo, mais...
mais oui, comme quoi, y a d'autres sortes de consommation qu'on peut avoir dans la vie, disons, culture, puis on tend à oublier les bienfaits de la culture dans la vie de tous les jours, dans les mouvements.
Que ce soit un petit geste comme lire un livre, aller à une expo, voir un film, tu sais, c'est pas obligé d'être grand, t'es pas obligé genre de t'immerser constamment, complètement dans la culture pour recevoir ses bienfaits.
Mais c'est-à-dire que suffisamment pour nous faire sortir de du train-train quotidien, quoi.
Nous faire sortir aussi genre de TikTok puis des réseaux sociaux, parce que ça c'est une partie de la culture, mais c'est quelque chose qui est
vraiment fait pour t'absorber. Et puis l'artiste est un observateur qui ouvre une petite brèche dans la réalité, et à partir de là, t'as toute l'humanité qui se regarde. Qui voit on est quoi.
Nathaniel, il faut vraiment trouver un titre pour tes chroniques parce que là, ça presse.
C'est clair.
Les essais radiophoniques.
C'est très, très belle plume.
Merci beaucoup.
Les gars, il nous reste un petit 10 minutes. J'aimerais peut-être en profiter pour vous demander.
Ouais.
Qu'est-ce que vous avez prévu en fin de semaine? Est-ce que c'est pas obligé d'être en fin de semaine, mais bientôt sur le calendrier culturel, est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent? Est-ce qu'il vous manque d'idées? Est-ce qu'on a besoin de vous proposer quelque chose? Est-ce que vous avez vécu quelque chose de, récemment pendant un événement qui serait le fun à discuter? Moi, je peux vous parler de M pour Montréal dans le cadre des partenariats avec Choc. Je travaille donc, je le rappelle, pour la radio Choc. Donc, des fois, je suis appelée à assister à des spectacles. Donc, la semaine passée, c'était la semaine folle de M pour Montréal. Donc, j'ai été assistée. Je pense jeudi, j'ai fait 6 shows en tout.
My God.
J'ai à peine survécu. Je pense que Nathalie, j'ai parlé au téléphone le lendemain. Puis je pense que tu le sentais au bout du téléphone que j'avais presque plus de cerveau. Mais pour beaucoup de ces spectacles-là, c'était la première fois que je voyais les artistes en show. Là, je sais que je suis vraiment en retard, mais j'ai vu Super Plage en show. Entre autres avec Virginie Bic, j'avais déjà vu en show, dans son solo show, dans ses spectacles solo en mode Virginie Bic, je l'avais déjà vu toute seule, mais jamais avec Super Plage et ses autres membres. Pour vrai, j'ai vraiment été séduite. Je sais pas si vous connaissez un petit peu. C'est genre la Groove Night, l'énergie sur la scène est à fond. Ça m'a vraiment fait du bien. Donc, si vous voulez vraiment découvrir de la bonne musique émergente québécoise qui est dans un mode positif groovy, allez écouter Super Plage. Sinon, j'ai découvert aussi Awabe avec sa chevelure, pour vrai, légendaire. J'ai jamais vu quelqu'un faire des air flips comme ça aussi magnifiques. Je sais pas trop comment vous décrire ça, à part que ses air flips sont insane et que sa voix est comme du coton, là. Pour vrai, là, c'est Awabe, là, aussi, ça a été une de mes major découvertes la semaine passée.
Comment t'écris ça, Awabe?
H-A-W-A-B. Ah ouais. Awabe. Et puis voilà, sinon, à venir, il va y avoir la nouvelle soirée d'humour émergente de Pouvoir Magie Feu que j'ai rencontré pendant le Festival Frima et le FME cet été. Donc, on s'est comme liés d'amitié un peu, fait que je suis comme au courant un peu.
Ils vont faire ça où?
C'est à l'Idéal, le premier spectacle, et c'est en décembre.
Sur Ontario.
Ouais, puis il est déjà booké. Tout est sold out, par contre, mais...
L'humour, ça va tout le temps.
Oui, mais c'est genre sold out. Fou, là. Mais genre, je pense qu'il va avoir à peu près comme un spectacle par mois. Et puis voilà, on va le recevoir en entrevue, en fait, pendant les airs, dans les prochaines émissions. Yeah. Ça risque d'être assez loufoque, ça risque d'être assez drôle. Les gars, si vous voulez vous joindre à nous, ça va être en pré-enregistrement, par contre. Ce vendredi, si vous voulez vous joindre à nous, voilà. Et puis, ben, par la suite, ce vendredi, il va y avoir le dernier spectacle du groupe Gasoline, qui font leur bye-bye, en fait, je pense, après 12 ans ou 13 ans.
Ils font un bye-bye?
Ils s'en vont, en fait. Le groupe est fini. C'est leur dernier spectacle au Ritz ce vendredi. Je pense que les billets se font de plus en plus rares aussi, mais c'est ça, je vais aller assister à ça. Donc, déjà très bien booké ma semaine.
Ah ouais, vraiment?
C'est clair.
Et voilà.
Ben, vendredi, il y a sûrement un des gros succès du cinéma québécois de l'année qui va sortir, c'est-à-dire Rue. Oui. L'adaptation du roman de Kim Thuy sur son expérience de réfugiée quand elle était jeune, comment elle a été accueillie ici.
C'est très attendu, c'est pour ça que tu dis ça?
Oui, c'est pour ça, avec Patrice Robitaille, Karine Vanant, c'est toute une...
Ah oui, un gros cast, là.
Plein de nouveaux visages aussi d'acteurs asiatiques, donc ça promet. Et puis sinon, moi, j'attends avec beaucoup de curiosité, je sais que je peux... objectif parce que je travaille au Théâtre Denise Pelletier, mais à la salle Fred Barry du Théâtre Denise Pelletier, il y a Vacarme, le concert théâtral.
Okay.
C'est une gang qui s'appelle Squelette Art Vivant.
Comment tu décrirais ça, un concert théâtral? C'est pas comme une comédie musicale, là?
Ben non, justement, c'est que les personnages, ils forment littéralement un band dans l'action de la pièce. C'est comme des ados qui ont un band à l'école secondaire. Puis, à travers les chansons de leur band, on comprenne ce qu'ils vivent avec leurs parents, dans leurs émois amoureux, dans leur game de ballon chasseur, comme ils disent. C'est vraiment...
Mais je comprends pas la différence entre comédie musicale et ça, mettons.
Ben, c'est plus
moi qui est nul, mais...
théâtre musical. C'est plus axé autour des tunes et non axé autour de chorégraphie, par exemple.
Je comprends. Il n'y a pas nécessairement le facteur danse.
Non, c'est ça. C'est pour ça que ça s'appelle vraiment un concert théâtral. Donc, c'est plus une forme de théâtre musical que de musical.
Mm-hmm,
Ça, c'est dès mardi à la salle Fred Barry, dès le 28 novembre.
Parfait, parfait. Sinon aussi, je sais que je vais essayer d'y aller si je peux meurtre d'ici là. Ce jeudi, Pony, je ne sais pas si vous la connaissez, Gabrielle Latitlé, lance sa nouvelle collection de vêtements. Je sais qu'on l'aime beaucoup ici.
L'artiste visuel?
Oui, c'est une artiste visuelle, mais aussi elle a sa compagnie de vêtements. Son magasin est sur la place de Saint-Hubert. Elle lance sa nouvelle collection, en fait, qui est axée sur le concept de non-violence, en fait. Si je ne m'abuse, peut-être que je ne le décris pas comme du monde, son concept. Mais bref, sa nouvelle collection sort. Elle fait une petite soirée ce jeudi à sa shop sur Plaza Saint-Hubert. Je le dis parce que je vois beaucoup, beaucoup d'Ucamiens, Ucamiennes porter ses chandails ici. Donc, je pense que ça pourrait intéresser quelques-uns, quelques-unes. Voilà! Je pense qu'on va se dire un petit bye-bye puis qu'on va se voir la semaine prochaine. Les gars, merci beaucoup, Nathaniel, Nicolas et Théo, d'avoir été avec moi.
Merci à toi, Mireille.
Merci à Mireille de nous avoir reçus.
Merci. Bye, guys.
Au revoir.